Musique et spiritualité, un programme présenté par Laurent Misputen.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue à notre radio Théolis. En cette période froide et triste de l'hiver où les émois sont en sommeil, je vous propose aujourd'hui d'évoquer l'amour, qui est sans doute le thème le plus représenté dans la poésie et la musique. Il est difficile de lui donner une définition universelle en raison de ses multiples significations selon les époques et selon le contexte culturel. Nous ne retiendrons que les principaux types de sentiments d'attirance, d'empathie, d'entente, d'acceptation ou bien de compassion que l'on ressent vis-à-vis d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Dans le monde de la Grèce antique, l'amour recouvrait quatre sentiments distincts selon une échelle d'intensité et de distance vis-à-vis de l'autre. Il y a d'abord l'éros, l'amour charnel, puis vient ensuite storgé, celui de l'affection et de la tendresse entre un père et une mère envers son enfant. La philia est ce que nous appelons aujourd'hui l'amitié, une forte estime réciproque entre deux êtres qui mène à la compréhension mutuelle et à l'entraide. Enfin, l'agapé se rapproche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'altruisme, le don de soi désintéressé. C'est un sentiment d'empathie et de compassion qui n'est pas sélectif ni fondé sur des affinités particulières comme la philia. Il s'applique de manière universelle, quelle que soit la personne. Dans la tradition chrétienne, ce mot renvoie à la charité et prend une connotation morale et religieuse, car elle consiste à aimer son prochain dans l'amour du divin et dans l'espérance de gagner sa grâce après la mort. Nous parlerons également d'autres représentations de l'amour qui sont apparues à des époques précises de l'histoire, comme l'amour courtois du Moyen-Âge et l'amour romantique. Pour commencer notre voyage musical, je vous propose d'évoquer l'amour Eros à travers le poème « Baiser » de Joachim du Bellay, poète de la Renaissance. Au XVIe siècle, les tendances changent et les auteurs osent de plus en plus. C'est ainsi que des grands noms de la poésie française tels que Ronsard, Marot ou encore Joachim du Bellay vont se lancer dans la poésie érotique. À cette période, le baiser permet l'échange des souffles, la conversation des âmes. Il devient érotique. L'amant et le poète baisent pour la première fois avec la langue qui aspire, mord et frétille dans la bouche de l'autre. Joachim du Bellay écrit le poème Baiser, structuré en quatrains, en 1549. L'auteur essaie dans les dernières strophes de convaincre son amante à s'ouvrir à lui pour qu'il l'amène dans son paradis, son ciel. Quand ton col de couleur rose se donne amour l'embrassement, et ton œil languit doucement d'une paupière à demi-close, mon âme se fond du désir dont elle est ardemment pleine, et ne peut souffrir à grand-peine la force d'un si grand plaisir. Puis, quand s'approche de la tienne ma lèvre, et que si près je suis que la fleur recueillir je puis de ton haleine ambroisienne, quand le soupir de ces odeurs où nos deux langues qui se jouent moitement folâtre et nous, évente mes douces ardeurs, il me semble être assis à table avec les dieux, tant je suis heureux, et boire à l'entrée savoureux leur doux breuvage délectable. Si le bien, qui au plus grand bien est plus prochain, prendre me laisse, pourquoi me permets-tu, maîtresse, qu'encore le plus grand soit mien? As-tu peur que la jouissance d'un si grand heure me fasse Dieu, et que sans toi je vole au lieu d'éternelle réjouissance? Belle, n'aie pas peur de cela. Partout où sera ta demeure, mon ciel jusqu'à temps que je meure, et mon paradis sera là. Thank you. Nous écoutions Baiser de Joachim Dubellay, suivi de la ballade pour luth A Dream de John Dowland, interprété au luth par Nigel Nortz. Continuons l'évocation de l'amour charnel à travers le poème Le péché de la grande poétesse iranienne Farrugh Farrokhzad, féministe avant l'heure, dont la vie fut brève puisqu'elle meurt à l'âge de 33 ans dans un tragique accident de voiture. Fille d'un colonel, elle se prit de passion pour la poésie très jeune et commença à composer dès 11 ans. Afin de préserver l'honneur de la famille, elle fut contrainte d'épouser le satiriste Paviz, avec lequel elle avait donné un simple rendez-vous dans un café. Elle n'avait que 16 ans. La poésie est son refuge dans un mariage désastreux. Délaissée par son mari, elle se console de son fils et publie plusieurs recueils de poésie comme Le Captif, La Rébellion, Acte de naissance. Elle divorce. Sa liaison avec un autre homme fut jugée amorale. Elle ne reverra plus jamais son fils. Ses publications, qui parlent librement de la sensualité féminine et de passion, choquèrent la société iranienne bien pensante. Elle fut violemment contestée dans l'Iran du dernier Shah, rétrograde, puritain, cultivant la soumission des femmes et refusant qu'elles s'instruisent et cultivent leurs talents et leurs goûts. Son poème « Le péché » fit scandale et fut jugé dépravé par sa sensualité, ses émois féminins, Sa sexualité est révélée sans entrave. Son œuvre est toujours interdite en Iran par le régime actuel des mollahs.
J'ai péché, péché dans le plaisir, dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché dans des bras de fer brûlants et rancuniers. Dans ce lieu solitaire, sombre et muet, ses yeux remplis de mystère, j'ai regardé, mon cœur dans ma poitrine, impatiemment, a tremblé des supplications de désir de ses yeux. Dans ce lieu solitaire, sombre et muet, je me suis assise près de lui, agitée, sa lèvre, l'envie sur mes lèvres a versé, de la tristesse de mon cœur fou, je me suis libérée. À l'oreille, l'histoire d'amour, je lui ai racontée. Je te veux, mon amant, je te veux, toi dont les bras sont vivifiants, je te veux. Toi, mon amoureux fou. Le désir alluma le feu dans son regard, le vin rouge dansa dans le verre, mon corps, sur le lit doux, librement trembla sur sa poitrine. J'ai péché dans le plaisir, près d'un corps tremblant et évanoui. Dieu, je ne sais ce que j'ai fait, dans ce lieu solitaire, sombre et muet.
Thank you.
Nous avons entendu le péché de Farrokhzade, lu par Véronique Sauton, suivi du prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner, avec l'Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado. Poursuivons avec l'amour filia, l'amitié à travers la fable des deux amis de Jean de La Fontaine. Il s'agit de deux nobles pendant la nuit où chacun est censé dormir. L'un se précipite dans le château de l'autre après avoir subi un cauchemar dans lequel il voit son ami triste. Craignant celui-ci affecté ou en danger, il lui propose de l'aide avec son arme, de l'argent, et propose même les services d'une esclave avec laquelle il a passé la nuit. Un véritable ami anticipe les besoins de son intime et ce que celui-ci a de plus cher. Leur amitié passe même avant le sommeil, puisque celui qui a rêvé s'est précipité chez son ami pour savoir si celui allait bien, alors qu'il ne l'a vu qu'un peu triste dans son rêve. Aucune avarice, aucune couardise, ni aucune jalousie ne doit exister entre deux vrais amis. Mais des deux, lequel est le plus attentionné envers l'autre ? L'auteur s'en remet à ses lecteurs pour répondre à cette question. Transposant l'histoire dans un pays des Amériques, le Monomotapa, La Fontaine dénonce entre les lignes avec ironie l'hypocrisie au sein de la noblesse française où les relations ne sont que superficielles. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit: il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Nous avons entendu la fable des deux amis de Jean de La Fontaine et la chaconne des Fontaines de Versailles de Michel Richard de Lalande avec l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par Georges Calweit. Passons à présent à l'amour filial, Storgé, sous le regard tendre et nostalgique de Victor Hugo dans son poème « Quand nous habitions tous ensemble », dédié à sa fille Léopoldine, qui meurt par noyade le 4 septembre 1843, avec son mari Charles Vaquerie, au cours d'une balade en barque sur la Seine, durant laquelle l'embarcation se retourne sous une rafale de vent. Écrit un an après sa mort, ce poème évoque les tendres étés passés en famille dans le château des Roches. Sa longueur en 13 quatrains, en octosyllabes, contraste avec ses vers courts pour opposer le passé lointain de bonheur révolu à la vie brève de Léopoldine. Quand nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois, elle avait 10 ans et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante, sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait « mon père », tout mon cœur s'écriait « mon Dieu ». À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son parler joyeux et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe en se cachant aux yeux de tous. Oh, la belle petite robe qu'elle avait, vous rappelez-vous? Le soir, auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit tandis qu'à la vitre rougie heurtait les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. Oh, je l'avais si jeune encore vue apparaître en mon destin. C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile du matin. Quand la lune claire et sereine brillait aux cieux, dans ces beaux mois, comme nous allions dans la plaine, comme nous courions dans les bois. Puis, vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes, en parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme comme l'abeille fait son miel. 12 anges, aux candides pensées. Elle était gaie en arrivant. Toutes ces choses sont passées, comme l'ombre et comme le vent. Thank you. Nous venons d'entendre « Quand nous habitions ensemble » de Victor Hugo et « Tristesse tirée des scènes d'enfants » de Robert Schumann, interprété par Christophe Eschenbach. Continuons notre périple avec le recueil « Méditations poétiques » d'Alphonse de Lamartine, le maître du lyrisme et le chantre de l'amour, qui marqua en 1820 un tournant dans la littérature française et la poésie. L'œuvre est marquée par les soupirs de l'âme de Lamartine, qui évoque ses souvenirs et ses regrets, les espérances et ses désespoirs, l'angoisse face à la mort. Dans le poème « À un enfant, fille du poète », Lamartine évoque religieusement sa petite fille Julia qu'il compare à un ange et son âme à une lyre. Au cours d'un voyage au Liban avec sa famille en 1832, Lamartine assistera dans ses bras à la mort de Julia, frappée de tuberculose.
Céleste, fille du poète, la vie est un hymne à deux voix. Son front sur le tien se reflète, sa lyre chante sous tes doigts. Sur tes yeux, quand sa bouche pose le baiser calme et sans frisson, sur ta paupière blanche et rose, le doux baiser a plus de son. Dans ses bras, quand il te soulève pour te montrer au ciel jaloux, on croit voir son plus divin rêve qu'il caresse sur ses genoux. Quand son doigt te permet de lire les vers qu'il vient de soupirer, on dirait l'âme de sa lyre qui se penche pour l'inspirer. Il récite. Une larme brille dans tes yeux attachés sur lui. Dans cette larme de sa fille, son cœur nage. Sa gloire à lui. Du chant que ta bouche répète, son cœur ému jouit deux fois. Céleste, fille du poète, la vie est un hymne à deux voix.
Thank you.
Nous avons entendu « À l'enfant fille du poète » d'Alphonse de Lamartine, lu par Véronique Sauton, puis la sixième harmonie poétique et religieuse, « Hymne de l'enfant au réveil » de Franz Liszt, interprété par Franz Kliedat. Évoquons à présent l'amour de son prochain, Agapé, avec le grand poète perse du XIIIe siècle, Jalal ad-Din Rumi. Rumi a profondément influencé le soufisme, la branche ésotérique et initiatique de l'islam. Il est considéré encore aujourd'hui en Orient, notamment en Turquie, en Iran et en Afghanistan, comme un grand maître spirituel du soufisme et désigné comme Mavlana, le maître initié. Son œuvre principale, le Masnavi, représente au travers de ses poèmes l'un des plus grands commentaires ésotériques du Coran. Je vous invite à découvrir « L'être humain est un lieu d'accueil » qui est un hymne à l'altérité, à la diversité et à la tolérance que les islamistes fanatiques d'aujourd'hui devraient connaître et lire. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant, une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée arrive. Tel un visiteur inattendu, accueille-les. Divertis-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets qui d'un seul coup balaye ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les noires pensées, la honte, la malveillance, rencontre-les à la porte en riant et invite-les à rentrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Thank you. Nous avons entendu « L'être humain est un lieu d'accueil » de Jalal al-Din Rumi, ainsi que le deuxième mouvement « Adagio cantabile » du trio numéro 1 en mi majeur de Beethoven, avec le Mozart Trio, composé de Menahem Pressler au piano, Isidore Cohen au violon et Bernard Greenhaus au violoncelle. Continuons avec l'amour courtois de la période médiévale, chanté par ses troubadours et ménestrels. Il s'agissait d'un art de vivre l'amour de manière chevaleresque, pour sa bien-aimée, avec courtoisie, respect et honnêteté, dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur. Pour évoquer cette période, je vous propose d'écouter un extrait de l'opéra Tannhäuser de Richard Wagner, et plus exactement l'air « O du mein holder Abendstern »« Ô ma douce étoile du soir » chanté par le poète Wolfram von Eschenbach. Tannhäuser est un noble chevalier et poète qui a connu l'amour libre et charnel dans les bras de Vénus, dans la montagne du Vénusberg. Après des années d'absence, il a renoncé à l'immortalité que lui promettait la déesse, pour revenir au pays et rejoindre celle qui lui fut promise, la nièce du landgrave, Elisabeth, qui lui était restée fidèle. Pour fêter son retour, le landgrave organise un concours de chant qui aura pour thème l'éveil à l'amour. Tannhäuser participe à la joute poétique auprès des célèbres chevaliers troubadours tels que Wolfram von Eschenbach et Walter von der Vogelweide. Tannhäuser, emporté dans son lyrisme, chante sa louange à Vénus et déclare qu'il a passé tout le temps de son absence avec elle dans le Vénusberg. Saisi d'horreur, les chevaliers veulent mettre à mort le poète maudit. Elisabeth intercède auprès des chevaliers et implore leur pardon. Tannhäuser devra quitter le pays et entamer un long pèlerinage vers Rome pour expier sa faute. Elisabeth attend le retour des pèlerins de retour de Rome et n'aperçoit pas son bien-aimé. Celle-ci, sans aucun espoir de salut de Tannhäuser, décide de se retirer du monde. Wolfram, amoureux secrètement de la belle, tente de la retenir et la regarde impuissant s'éloigner vers la mort comme une étoile, un ange dans le ciel. mortal présage d'un crépuscule sombre sur la vallée, étend son voile d'ombre. Et l'âme, avant de franchir ses hauteurs, retient son vol et cède à ses terreurs. Mais tu parais charmante et douce étoile, ta clarté pure a dissipé le voile. L'ombre soudain cède à ton doux rayon, tu viens montrer le chemin du vallon. Ô douce étoile, feu du soir, toi que j'aimais toujours revoir, dis-lui de grâce, adieu pour moi quand elle passe auprès de toi, quand vers les sphères éternelles un ange saint étend ses ailes. Nous avons entendu « O du mein Holder Aberstern » ou « Ma douce étoile du soir » dans l'acte 3 de Tannhäuser de Richard Wagner, chanté par Dietrich Fischer-Disco, accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Berlin dirigé par Otto Gerz. Je vous propose de terminer notre émission en beauté avec l'amour romantique dont Victor Hugo fut le maître. Dans le poème « Aimons toujours, aimons encore » tiré des contemplations, le poète s'adresse à la femme de sa vie, Juliette Drouet, sa fidèle compagne jusqu'à la mort. L'amour est le moteur de la vie, la source de l'espérance, la clé du bonheur, l'inspiration des poètes. Il est la seule et véritable richesse des hommes. Tout est amené à mourir et disparaître, la jeunesse, la passion. L'amour est éternel, tel un feu qui ne peut s'éteindre ou une fleur qui ne peut se faner. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable. Aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voie en tes beaux yeux tes voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls sous l'ombrage se sentent d'eux, ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles. La femme, ange aux chastes faveurs, aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à nous, beauté touchante, viens à moi, toi mon bien, ma loi. Ange, viens à moi quand tu chantes, et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule vérité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité, je préfère au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre, quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit, brasier subtil, tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit, qu'en reste-t-il ? Tout plaisir, fleur à peine éclose, dans notre avril sombre et terni, s'effeuille et meurt, lit, myrte ou rose. Et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste, ô noble femme. Si tu veux dans ce vil séjour garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir.
Nous écoutions « Aimons toujours, aimons encore » de Victor Hugo, tiré des Contemplations, et le troisième mouvement adagio de la suite orchestrale pour cordes, Idylle, de Leo Janáček, avec le Janáček Philharmonic Orchestra, dirigé par Otokar Trelík. Ainsi s'achève notre émission consacrée à l'amour en poésie. J'espère que vous avez passé un moment de grâce et de rêve en cette période hivernale. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres.